agenda culturel tous les jours. Les concerts à ne pas manquer, les nouveaux disques, peintures et photos, les expositions à voir, les artistes ont leur rendez-vous sur Radio Capi. La culture congolaise est bien vivante et nous la mettons en valeur. L'agenda culturel, c'est du lundi au vendredi à 7h50 et à 8h50 et samedi et dimanche à 6h50 et 7h50.
Encore une fois, bienvenue dans cette deuxième tranche du magazine Au Capi Service. Le numérique est un secteur porteur d'opportunités qui peut contribuer au développement socio-économique de la RDC, d'après les experts. La création du ministère du numérique dans le nouveau gouvernement est un signe avant-coureur du développement du secteur du numérique en RDC, d'après certains. Et cela tel que voulu par le plan national du numérique Horizon 2025. Quelles sont les stratégies à mettre en place pour faire du numérique un vecteur des créations des richesses et de l'emploi en République démocratique du Congo. Voilà les sujets sur lesquels nous allons nous pencher dans cette deuxième partie de l'émission avec le professeur Kodjo Ndoukouma, expert en droit numérique. Et si tout va bien, nous recevrons également Monsieur le ministre Désiré Cachemire-Eberand, qui est le patron du numérique en République démocratique du Congo. Eh bien, des questions et préoccupations, n'attendez pas les dernières minutes. Composez déjà le 081 893 94. Écrivez-nous également à service@radiocapi.net. service@radiocapi.net. Nous avons déjà quelques réactions des internautes par rapport au numérique. Nous allons les lire tout à l'heure. Des réactions par rapport au numérique. Nous avons par exemple la réaction de Maître Edmond Bokolo Nembandaka qui nous dit que le numérique a beaucoup transformé le monde. D'ailleurs, dans les pays hautement industrialisés, le numérique a rendu les hommes des hommes trop riches car c'est un secteur qui crée des emplois. En RDC, ce secteur n'est pas vraiment organisé juridiquement et nous pensons que le professeur Eberand va pouvoir initier un projet de loi qui organise ces secteurs. C'est un secteur créateur d'emplois, un secteur de recherche, un secteur qui est utilisé par toutes les couches de la population. Il nécessite une attention soutenue de la part de nos autorités. Patrick Lukumbu-Fils nous a écrit, il dit ceci, le numérique est le moteur de développement socio-économique d'un pays qui veut décoller et se voir décoller pour l'émergence. Mais le numérique exige un personnel compétent, le matériel adéquat. Notre pays, souvent, on n'a que des théories, des paroles, et il n'y a pas de concrétisation. La question que je pose à l'invité est de savoir quels sont les matériels mis à disposition par le gouvernement pour la réalisation de ces secteurs numériques en RDC. Les grandes puissances comme les USA, la France, mettent énormément de l'argent pour la maintenance de ces secteurs. Je crois, moi ici, je me demande avec quel budget on va développer le numérique en RDC. Je crains fort que ça soit juste du gaspillage. Voilà, c'est Patrick Aimbé Likumbu depuis Kisangani. Fabien de Kindu nous dit j'apprécie beaucoup le fait que le gouvernement a créé ce ministère du numérique. Car le secteur du numérique est un secteur qui permettra d'améliorer les climats des affaires et qui va servir de levier de croissance économique dans notre pays. Le numérique peut aider beaucoup dans la lutte contre la corruption pour renforcer les recettes de l'État et promouvoir la transparence dans plusieurs activités qui engagent le gouvernement, qu'engage le gouvernement pour son bon fonctionnement. J'ai une question à poser, celle de savoir. Quand est-ce que toutes ces stratégies seront mises en place pour faire du numérique un vecteur des créations des richesses en République démocratique du Congo. Bien, merci pour toutes ces questions. Vous avez des questions et des préoccupations, eh bien, écrivez-nous sur la page Facebook de l'émission Au Capi Service. On fait signe que l'invité professeur Kodjo sera tout à l'heure, il va nous rejoindre dans quelques instants. Le ministre Désiré Cachemire n'est pas aussi encore en ligne. Ils vont nous retrouver tout à l'heure. Mais continuez à nous appeler au 081 890 63 94. Nous allons vous proposer quelques notes de musique et on se retrouve juste après pour la suite de notre programme.
Belle, c'est un mot qu'on dirait inventé pour elle. Telle danser qu'elle met son corps à jour. Telle un oiseau qui étend ses ailes pour s'envoler. Alors je sens l'enfer s'ouvrir sous mes pieds. J'ai posé mes yeux sous sa robe de gitane. À quoi me sert encore de prier Notre-Dame? Qu'elle est celui qui lui jettera la première pierre. Celui-là ne mérite pas d'être sur terre. Oh Lucifer, oh laisse-moi rien qu'une fois glisser mes doigts dans les cheveux d'Esmeralda. Mais est-ce le diable qui s'est incarné en elle pour détourner mes yeux du Dieu éternel? Qui a mis dans mon être ce désir charnel pour m'empêcher de regarder vers le ciel? Elle porte en elle le péché originel. La désirée fait-il de moi un criminel? Celle qu'on prenait pour une fille de joie. Oh Notre-Dame, oh laisse-moi rien qu'une fois pousser la porte du jardin d'Esmeralda.
Belle, malgré ses grands yeux noirs qui vous ensorcellent, la demoiselle serait-elle encore plus seule quand ses mouvements me font voir mon émerveil sous son jupon aux couleurs de l'arc-en-ciel? M'as-tu tiré, laissez-moi vous être infidèle avant de vous avoir mené jusqu'à l'autel.
C'est la découverte de nouveaux talents, de nouveaux sons des Congolais d'ici et d'ailleurs. De mercredi à vendredi, à partir de 23h et le samedi à 21h.
Merci d'écouter la Radio Okapi à une voix pour tous. Comme je l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui nous parlons de, dans cette deuxième partie de l'émission Okapi Service, nous parlons de, du numérique, comment faire du numérique un vecteur de création de richesses. Nous avons en ligne Platini Mbombo, en attendant l'arrivée de notre invité, le professeur Kodjo. Platini Mbombo, vous êtes en Mbandaka. Bonjour.
Aujourd'hui, bonjour, je salue les invités.
Quelle est votre question? Quelles sont vos préoccupations?
Merci beaucoup aujourd'hui pour m'avoir compté la parole. Je pense que le numérique, comme vous avez évoqué et comme vous avez déjà dit, je pense qu'on a suivi depuis longtemps ce système-là. Maintenant, comme vous l'avez aussi invoqué par rapport à l'évolution, alors ce qui m'a fait à comprendre le numérique, si l'invité peut être là, il peut aussi rapidement nous répondre par rapport à la thématique, parce qu'il y a aussi la différence. Il peut y avoir un peu de détecteur sur le plan de la différence entre le numérique et sur le fibre optique là qu'on a entendu depuis longtemps. Et le numérique là, qu'est-ce qu'il faut pour qu'on mette dans les provinces qu'il n'y a pas comme je peux dire, soit l'électricité ou quoi, que je suis à Mbandaka, dans la ville de Mbandaka, je connais comment ça fonctionne sur le plan même de l'immigration et aussi même des réseaux partout par là qu'on utilise. Mais on voit que ça pose juste un problème, c'est juste sur le plan des connexions. Et même si, c'est ça ce que je voulais quand même à contourner par rapport à cette thématique du jour, c'est tout sur le plan de séparation, hein, la différence entre le numérique et aussi les fibres optiques qu'on a déjà attendues depuis longtemps. Voilà peut-être ce que je veux quand même continuer pendant cette émission.
Bien, et dites-nous Platini, là-bas en Mbandaka, est-ce que on peut dire que le Internet a vraiment pénétré la région? Est-ce que beaucoup de gens utilisent Internet aujourd'hui?
Ouais, voilà, merci beaucoup. Aujourd'hui, je pense qu'ici à Mbandaka, il y a beaucoup de gens qui utilisent l'Internet. Il y a l'Internet, il y a partout. Mais il y a ce qu'on appelle, il y a aussi la marque des connexions. Hein. La connexion n'était pas tellement bonne. Parce que souvent, si on utilise soit le Facebook, ou soit la connexion, et il n'y a pas une très bonne qualité de connexion de l'Internet. Là aussi, ça dépend aussi appel de la mise en œuvre, de renforcement des capacités, parce qu'ici, apparemment, nous avons au moins trois réseaux qui fonctionnent, si je peux citer. Il y a Vodacom, il y a aussi Orange, il y a aussi Airtel qui est opérationnel à tout moment. Mais souvent, si on arrive à acheter le mégabat, ce qu'on dit, hein, le mégabat au niveau de télé, c'est que les réseaux-là, et quand on commence à utiliser, vous allez constater que surtout les connexions n'arrivent pas à être vraiment dans un bon état. Hein, vous voyez, donc ça aussi, c'est ça ce qu'il faut aussi vous c'est un problème ici dans la ville de Mbandaka, surtout sur le plan des connexions. Il y a les connexions, il n'y a pas. Mais moi aussi, je suis maintenant sur la connexion, mais vous voyez que nous, la visibilité, soit la vitesse là n'arrive pas vraiment à totaliser les taux pour que les gens arrivent à utiliser un peu l'Internet à tout moment.
Bien, merci Platini Mbombo de Mbandaka. Nous parlons aujourd'hui du développement du secteur numérique en République démocratique du Congo. Comment faire du numérique un vecteur de création des richesses en République démocratique du Congo? Je le disais tout à l'heure que le numérique est un secteur porteur d'opportunités qui peut contribuer au développement socio-économique du pays, d'après les experts. La création du ministère du numérique dans le nouveau gouvernement est un signe avant-coureur du développement du secteur du numérique ARDC, tel que voulu par le plan national du numérique Horizon 2025. Quelles sont les stratégies à mettre en place pour faire du numérique un vecteur de création des richesses et de l'emploi? Eh bien, nous allons parler de cela tout à l'heure avec nos invités. Nous attendons vos questions et préoccupations au 081-890-63-94. Écrivez-nous également à service@radiookapi.net. ou bien sur la page Facebook de l'émission, vous pouvez nous écrire à la page de Facebook de l'émission Okapi Service pour donner votre point de vue et pour nous dire ce que vous pensez du développement du numérique en République démocratique du Congo. Eh bien, Nous allons accueillir notre invité, le professeur Kodjo Ndoukouma. Je l'ai dit tout à l'heure, si tout va bien, on aura le ministre Désiré Kachmire-Bérande. Marcel est en train de se battre pour que nous puissions l'avoir dans cette émission afin qu'il nous parle de la politique du gouvernement congolais par rapport au développement du numérique en République démocratique du Congo. Des questions et préoccupations composées, le 081-890-63-94.
Le magazine des Nations Unies.
Magazine des Nations Unies. Le magazine des Nations Unies, tout sur les faits saillants des agences du système des Nations Unies. Chaque dimanche à 8h30 et en rediffusion à 19h05.
Comment faire du numérique un vecteur de création des richesses en RDC? Professeur Kodjo Ndoukouma, vous êtes expert en droit numérique. Bonjour.
Bonjour, monsieur Jody.
La première question est de savoir, c'est quoi le numérique?
Bon, le numérique, dans le plan national du numérique, qui est un document officiel adopté par la présidence de la République, et aujourd'hui endossé par le programme du gouvernement, et le numérique, c'est à la fois la télécommunication du son. Tout ce qui est radiophonie, téléphonie, c'est la télécommunication de l'image. Tout ce qui est télévision, tout ce qui est aujourd'hui VOD également, c'est la télécommunication aussi du texte. Ce qui est le cas aujourd'hui du fax ou des emails et tout ça. C'est aussi la télécommunication des données, la téléinformatique. Donc tout ce qui est aujourd'hui dans l'application, les distributeurs automatiques des billets. Donc vous avez des transactions financières ou même la messagerie financière qui fonctionne simplement avec l'échange des données. Mais vous avez en plus de cela maintenant l'Internet, qui est le réseau des réseaux, qui interconnecte à peu près 50 réseaux de types différents. Et puis, au-delà de l'Internet, qui a amené ce qu'on a appelé la bascule de l'infrastructure des télécommunications vers l'infrastructure de l'information. Et maintenant, l'infrastructure de l'information est devenue une infrastructure de liberté. Donc, vous avez dans le numérique toutes ces technologies qui sont agrégées. Et maintenant, on ajoute également les objets connectés. Quand vous circulez avec votre voiture, vous avez des gadgets comme le GPS, comme également la caméra qui vous empêche de cogner un mur et qui freine, même si vous ne voulez pas freiner, si vous arrivez près de l'obstacle. C'est ce qu'on appelle les objets connectés et en fait c'est l'informatique embarquée. Et enfin, vous avez aujourd'hui l'intelligence artificielle et la robotique. Donc le numérique, c'est cela, c'est une partie de l'informatique et de la mathématique, mais qui a des applications réelles dans la vie courante et qui transforme notre manière d'être, notre manière de vivre, notre manière de travailler et notre manière de consommer. Et finalement, on parle de révolution numérique.
Professeur, en quoi est-ce que le numérique peut être un vecteur de création des richesses?
Bon, je commencerai d'abord par le progrès, avant de parler surtout des paradoxes du progrès. Je vois qu'il y a une politique derrière, et je salue l'aîné de la Sorbonne, le professeur et ministre Eberhardt. C'est déjà bon dans le sens où vous avez des chiffres dans le secteur core des télécommunications. Les télécommunications aujourd'hui au Congo, c'est 41 000, donc statistiques du mois de mars 2021 de la RPTC, c'est 41 595 000 abonnés. Et c'est 21 766 000 internautes mobiles. Donc il y a des gens qui ont des téléphones, mais ils sont à 41 millions, mais ceux qui ont accès à Internet à partir de leur téléphone, ils sont 21 millions. Le mobile money prend aujourd'hui 7 753 000 personnes. Donc il y a 7 millions de personnes qui aujourd'hui font les transactions en monnaie,
via leur téléphone,
monnaie électronique, effectivement. Et donc le secteur des télécommunications, qui est le secteur porteur du numérique, fait aujourd'hui un chiffre d'affaires annuel sur 12 mois d'avril 2020 à mars 2021, un chiffre d'affaires de 1 milliard 528 millions 134 000 dollars. Donc quand on regarde ces chiffres, on se dit qu'il y a une vitalité du secteur.
Et par rapport au taux de pénétration de l'Internet?
Le taux de pénétration de l'Internet, vous avez un taux de pénétration de 24,6%. Ça veut dire que les nombres de personnes qui ont accès à Internet par rapport au volume total du nombre des habitants, donc il y a 24,6% des personnes qui ont accès à Internet mobile, et vous avez près de 47% de personnes qui ont accès au téléphone. Ça fait une grosse télédensité. Parce que quand la RDC, en l'an 2000, passe le cap du siècle, on a un téléphone pour 1300 habitants. Et même qu'il fallait deux fois, à l'an 2000, traverser à Brazzaville pour avoir un appel en nodal, ça veut dire un appel en international. Mais le numérique, ce n'est pas que cela. Le numérique, aujourd'hui, nous amène à l'économie numérique et à la souveraineté numérique. C'est les deux versants dans lesquels peut-être on va aller. En termes d'abord vertueux, donc le progrès du numérique, c'est l'utilisation des technologies de l'information et de la communication dans les secteurs de production, dans le secteur de distribution et dans le secteur de consommation des richesses. Aujourd'hui, vous avez toutes les habitudes d'achat des filles et surtout des filles qui ont changé parce qu'elles achètent leur sac à main, elles achètent leur habit stylé, elles achètent leur souvent pacotille à travers Internet. Et il y a des personnes aujourd'hui qui ont trouvé un nouvel emploi en Europe, qui ont des nationalités qui leur permettent de faire des allers-retours et qui sont utilisés comme facteurs. Ils apportent ici effectivement des produits qui viennent de sortir en Europe et qui amènent.
Et les commandes sont passées sur Internet.
Les commandes sont passées sur Internet. Et ça, c'est ce qu'on appelle le commerce électronique. Vous avez également les distributeurs automatiques des billets. Ça veut dire que depuis 2008, ça c'était avec le gouverneur Massangou, il a créé quelque chose qu'on a appelé le M-Falanga. Comment est-ce que nous sommes dans un pays où le taux de bancarisation est toujours inférieur, peut-être inférieur à 10%, on le vérifiera, mais c'est en tout cas inférieur. Et vous avez un taux de pénétration de téléphone qui est toujours important. Alors, comment on fait une politique de bancarisation des masses? On dit, en ce moment-là, on utilise les distributeurs automatiques des billets pour les banques. Ce qui augmente, en fait, les mouvements de transactions, dans le sens où, même à minuit, même quand le guichet de la banque est fermé,
on peut aller retirer de l'argent.
Et donc,
ou déposer.
Ce qui fait que vous avez une déguichetisation des services financiers. Et puis avec M-Pesa, il y a un marketeur d'une des sociétés de télécommunications qui a dit que le flux de trésorerie, le flux de monétaire qui circule dans je peux pas citer la marque, donc dans leur marque de monnaie, dans leur messagerie financière est plus important que tout ce qu'il y a comme flux d'avoir dans les banques. Alors, ça montre toute cette vitalité. Et puis, vous avez l'accès à l'information. Vous savez, nous sommes aujourd'hui au 21e siècle, on a l'économie de la donnée, l'économie des connaissances et l'économie de l'information. Donc, les personnes aujourd'hui, quand vous regardez sur TikTok, les personnes aujourd'hui sont des mini-célébrités. Donc, tout le monde aujourd'hui est un peu payé par Facebook. Quand vous avez déjà plus de 10 000 vues, 10 000 personnes qui vous suivent, YouTube vous paye. Parce que, en fait, vous mettez à la disposition un contenu qui attire du monde. Eux, ils font passer la publicité et ils vous rétribuent. Ce qui fait que vous avez des micro-célébrités comme ça sur Internet. Et puis, vous avez toutes les transformations sur l'industrie musicale et l'industrie littéraire. Aujourd'hui, plus personne n'imprime un CD. Ça veut dire quand vous regardez le comportement musical aujourd'hui, les gens font plus de featuring et les gens font plus des singles. De sorte que il sort plus tout un album, il le sort.
Il lance des singles et ils vendent sur Internet.
Ils vendent sur Internet, sur les plateformes comme iTunes ou sur Google Store. Et c'est le nombre de téléchargements, le nombre de clics qui valorise, son travail littéraire. Mais maintenant, c'est qu'il y a de dommages, parce que vous avez dit, quelle richesse ça peut amener. Oui, c'est vrai, ça amène cette richesse. Mais il y a également le paradoxe du progrès. Ça signifie que l'Internet ne crée pas de la valeur, mais l'Internet la détruit ou la duplique plus facilement. Ça veut dire que lorsque moi j'ai fait un album musical où je devais avoir un disque de platine pour ou disque d'or pour 100 000 ventes, disque de platine peut-être pour 1 million de ventes, aujourd'hui dès que je sors cet album, s'il est sur Internet, il est fort probable que personne ne l'achète.
Parce que les gens vont déjà le consommer.
Parce que les gens vont le consommer. Donc, nous sommes avec l'Internet dans ce que Musgrave et Tirole, qui sont quand même des gens qui ont eu des prix Nobel d'économie, disent que nous sommes dans les biens non rivaux et dans les biens non exclusifs. Ça veut dire, dès que je crée quelque chose qui est sur Internet, le fait que des milliers de gens y accèdent ne diminue ni n'empêche l'accès à la consommation pour les autres. Ça veut dire, si moi j'ai un stock dans un magasin, je gagne de l'argent en fonction de la rotation de mon stock. Le bien étant rare, il devient plus cher. Mais en fait, ce qui se passe sur Internet, dès que moi j'ai mis, en termes de coût d'opportunité, donc j'ai trop travaillé pendant 5 ans pour avoir une inspiration, que ce soit pour écrire un livre, que ce soit pour faire la musique, dès que je mets ça sur Internet, n'importe qui peut le copier sans aucune difficulté. Et donc moi, au lieu d'être rétribué sur l'ensemble de mon œuvre par le stock, je suis maintenant distribué par ceux qui contrôlent la chaîne de valeur d'Internet. Et cette chaîne de valeur d'Internet...
Mais il y a des systèmes de protection sur Internet. Quand vous mettez votre album, il y a moyen de protéger. Et ne peut y accéder que celui qui a peut-être payé.
Bon, nous sommes en Afrique. On n'a pas tous les systèmes de protection contre le téléchargement illégal. Ce qui est vrai, c'est qu'on le constate. Une œuvre, une fois qu'on n'a pas pu la télécharger sur iTunes, on va sur Tubidi. Tubidi, tous les jeunes le connaissent, c'est une plateforme où on peut télécharger n'importe quel morceau sans payer quoi que ce soit. Ou alors, vous avez quelqu'un qui vous l'envoie par WhatsApp après qu'il est déjà téléchargé.
Et voilà, on se le partage
on
comme ça.
On se le partage comme c'est ça. Fini. Mais maintenant, dans la chaîne de valeur, il y a les GAFA, Google, Amazon, Facebook et Apple. Ça veut dire que ce sont des personnes qui sont sur un marché global. Si vous regardez, toutes ces entreprises sont américaines. Et les États-Unis, c'est à peu près 320 millions d'habitants. Mais eux, quand ils destinent leur service, sans être présents partout dans le monde, ils le destinent à des milliards de personnes. Donc, les chiffres d'affaires importants que Google a eu à réaliser en 2018, ça veut dire il a eu une capitalisation boursière de 1000 milliards de dollars. 1000 milliards de dollars en capitalisation boursière, ça a fait chahuter la bourse, on leur a demandé de faire une décote. C'est plus que Coca-Cola, une marque installée depuis 20 ans ou plus. C'est plus que General Electric, c'est plus que la Bank of America, qui sont des super conglomérats. En fait, ils réalisent ces bénéfices comment ? Sur le dividende démographique. Ça veut dire l'Afrique aujourd'hui a plus d'1,2 milliard d'habitants, mais c'est un marché de grande consommation, un marché de masse. Alors, les producteurs de tout ce qui est tuyau, tout ce qui est plateforme, sont aux États-Unis ou peut-être un peu
en Europe, en Chine,
mais ça c'est vraiment localisé, on parle des GAFA. Et leur chiffre d'affaires de 1000 milliards de dollars de capitalisation boursière, ils peuvent pas le faire seulement sur le marché américain. Donc, ils sont aux États-Unis, ils transpercent les frontières nationales, et ils destinent leurs produits comme Facebook, comme TikTok, qui sont des produits populaires, vers des destinations comme l'Afrique, où ils savent que ils vont gagner par tête d'habitant. Maintenant, l'Europe a fait quoi? L'Europe a fait ce qu'on appelle le RGPD. Ça veut dire le règlement général sur la protection des données personnelles. Obligeant à ce que, quand vous destinez vos produits chez les citoyens américains, citoyens européens, pardon, vous générez en fait du bénéfice sur leur clic, leur connexion, leur navigation Internet, mais que leurs données restent sur l'Europe et le marché européen sait contrôler justement les avoirs ou les flux de transactions que les Américains, les compagnies américaines du numérique réalisent. Et ils ont imposé ce qu'ils ont appelé une taxe GAFA. Parce que vous ne pouvez pas réaliser, je ne plaide pas pour la taxe GAFA, mais vous ne pouvez pas réaliser 1000 milliards de dollars de capitalisation boursière si vous n'atteignez pas le citoyen congolais, si vous n'atteignez pas le citoyen européen, si vous n'atteignez pas le citoyen asiatique.
Il faut qu'il y ait des taxes.
Il faut qu'il y ait quand même une rétribution parce que, en fait, ceux qui consomment gratuitement sont devenus le produit. Ça veut dire le fait pour nous, Africains, d'aller sur les plateformes comme celui de Google, celui de Facebook ou celui de Amazon, fait de nous en fait les produits. On nous donne, le modèle d'affaires il est différent, on nous donne l'accès gratuit à YouTube, l'accès gratuit à Facebook.
Et on nous utilise pour la publicité.
On nous utilise pour la publicité. C'est comme si moi j'invitais des gens chez moi à la maison. Et je dis à Bralima, voilà, ou à une société brassicole, je dis, voilà, j'aurai 100 personnes chez moi, vous pouvez venir passer votre publicité. Les gens viennent gratuitement, pour consommer peut-être les produits d'anniversaire, mais ils sont obligés à l'occasion de faire ça.
Oui.
Donc ça, nous devons évidemment y veiller.
Et un instant, professeur, on va accueillir les auditeurs. Trésor nous appelle de Kinshasa et David Debounia. Trésor, bonjour.
Je suis aussi à l'invité, tous ceux qui travaillent dans le secteur du numérique.
Quelle est votre question, Trésor?
Ah oui, bon. J'avais pensé que le ministre pouvait être là, M. Berrand, pour pouvoir répondre un peu à nos préoccupations, parce que je voulais être un peu pratique dans mon intervention.
Oui.
Vous savez, on ne peut pas développer dans le secteur du numérique sans l'accompagnement du gouvernement. Je l'ai dit parce que je travaille dans le secteur du numérique, notamment dans les objets connectés pour les bâtiments intelligents. Donc c'est vraiment difficile d'y travailler. Et je voulais qu'il puisse quand même, je ne sais pas si l'invité pourra nous dire s'il est mieux placé, la politique du gouvernement pour pouvoir accompagner le secteur du numérique, avec l'accès à Internet qui est vraiment difficile en RDC. On aurait dû voir, par exemple, parce que récemment, il y a un jeune qui a produit une tablette au CAPI. On aurait dû voir, par exemple, le gouvernement acheter des tablettes pour tous les députés, pour tous les sénateurs, pour les membres du gouvernement, des gouvernements provinciaux, du gouvernement central, des assemblées provinciales. Comme ça, ça pourrait quand même encourager l'entrepreneuriat dans le secteur du numérique.
Oui.
On pourrait voir les membres du gouvernement avec la passe musique des basiques, avec School Up et autres. Mais c'est ce qu'on ne voit pas. Je ne sais pas si l'invité pourra quand même nous dire c'est quoi la politique du gouvernement en matière du secteur numérique. C'était ça ma préoccupation. Surtout si le ministre pouvait être là, ça allait être vraiment bien.
Voilà, Marcel tente de joindre le ministre Désiré Cachemire et Berrand pour le ministre du numérique pour nous en dire un peu plus. David, vous êtes à Bounia, bonjour.
Bonjour, j'ai vraiment le sujet est très alléchant et moi je pensais que le ministre aussi serait au studio pour qu'on lui
bon, pose vraiment les problèmes. D'accord, il n'est pas, le ministre n'est pas encore là, mais nous avons le professeur Kodjon Doukouma qui est expert en droit numérique. Quelle est la question que vous lui adressez?
Oui, je salue aussi le professeur. Alors la préoccupation celle-ci, j'ai dit, en comme le premier intervenant, et c'est un très beau sujet, mais moi je pense que le numérique, c'est beaucoup plus appliqué dans le grand centre. Mais dans nos milieux ruraux où vit la grande partie de la population, je ne sais pas si vraiment c'est très important pour le moment d'en parler. Alors, je voulais poser la question au ministre. Quelle est la politique que le gouvernement met en place pour que le numérique soit rentable à la population. Et puis, au professeur qui est avec vous au studio, est-ce que ce n'est pas vraiment une stratégie, une politique de favoriser l'émergence des Occidentaux, puisqu'ils sont très avancés sur ce plan-là des numériques. Alors nous autres, c'est comme nous sommes devenus comme leur marché. Et oui, est-ce que ce n'est pas une politique en parlant de numérique maintenant chez nous, étant donné qu'il n'y a pas de dispositions vraiment pratiques, nous exposer, nous surtout les Congolais, à devenir le marché des Occidentaux. Voilà mes deux préoccupations.
Merci David. Glody Bouanganga de Bandundouville, bonjour.
Oui, bonjour messieurs les journalistes, bonjour à l'invité, bonjour merci à tous les auditeurs de la Radio Capi.
Quelle est votre question?
Oui, merci pour la parole accordée. Moi, je pense que le secteur de la numérique dans notre pays, c'est un silo gare parce que rien ne marche depuis que le projet a été lancé. Vous allez voir la société de communication qui nous donne la connexion ne marche pas et l'État est là aussi en train de regarder, personne n'est dit un mot. Mais moi, je voulais poser la question au ministre, je ne sais pas s'il peut être là, vous lui poser cette question. Quel est le plan directeur qu'il a pu proposer par rapport dans son domaine du ministère de la communication, là où il est ministre? Parce que nous devons savoir, parce que s'il n'y a pas les programmes, on ne peut rien faire. Nous devons avoir le planning. Par exemple, telle année, on va faire ceci, on va faire cela. Et aussi, les problèmes de fibre optique. Depuis que le gouvernement antérieur a lancé les projets de fibre optique, jusqu'aujourd'hui, c'est un anonyme, on ne sait pas le projet est arrivé à quel niveau. Par exemple, si vous allez dans les différents pays africains, vous allez se rendre compte que il y a certains pays africains qui ont déjà gagné la numérisation parce que la connexion Internet est disponible. Mais ici, à la République démocratique du Congo, il y a certains territoires, il y a certaines villes, vous allez voir que la connexion Internet ne marche même pas. Mais moi, je n'arrive pas à comprendre comment est-ce qu'on peut gagner le secteur de la numérisation pour créer des emplois pendant que la connexion Internet ne marche pas. C'est là aussi il y a un problème. Moi, j'aimerais que si le ministre peut faire, il peut être vraiment pratique au lieu d'être de technique, en fait, de maître de politique qui peut faire à ce que on puisse changer directement, parce que ça ne va pas. Parce que s'il n'y a pas la connexion Internet, on ne peut rien faire.
D'accord.
Alors, vous voulez gagner le secteur de la numérisation pendant que la connexion Internet ne marche pas.
D'accord.
Là, nous allons rien faire. On va tourner seulement à une seule place. On fait les cercles vicieux, donc on ne va pas avancer.
Merci, Claudie.
Il faut que le ministre puisse mettre d'abord des bonnes politiques avant que les choses puissent marcher dans ce pays. Je vous remercie.
Merci beaucoup. Professeur Kodjo, est-ce que la RDC dispose d'une politique claire de développement du numérique?
Bon, je fais l'inventaire des initiatives. Il y a eu en 2019 le plan national du numérique, et ce plan national du numérique a été adopté le 3 septembre 2019, mais le gouvernement qui avait fait adopter son plan du gouvernement, donc le gouvernement Ilukamba, à l'époque, ne l'avait pas intégré. Maintenant, l'actuel gouvernement, où il y a le professeur Eberhan, qui est un monsieur très solide, a adopté, donc ce gouvernement a adopté le plan national du numérique qui était élaboré et validé avec les services de la présidence de la République. Ensuite, il y a eu au niveau du ministère des PTNTIC, juste après 2019, l'initiative IRDC, donc électronique RDC. Et récemment, je crois qu'il y a, c'était le mois dernier, il y a eu la table ronde sur la transformation numérique, piloté évidemment par le ministre du numérique. Cela veut dire...
C'était au début de ce mois.
Au début de ce mois. Ah, d'accord, c'est bien. Alors, cela veut dire qu'il y a d'abord une appréhension cognitive du secteur. Le secteur n'a jamais existé. C'est le premier ministre qui est en charge du numérique. Il doit nécessairement avoir une administration en dessous, un secrétariat général au numérique probablement, et aussi tracer effectivement le domaine de démarcation avec le PTNTIC, et également les médias. Parce que son secteur, le secteur du numérique tel qu'il a été quadrillé, c'est les infrastructures du numérique d'abord. C'est tout ce qui est fibre optique, on pourra y revenir. Tout ce qui est antenne, tout ce qui est réseau des télécommunications. Ensuite, il y a le contenu. Ça veut dire, qu'est-ce qu'on fait passer là-dedans? Est-ce que c'est des contenus audiovisuels? Est-ce que c'est simplement des données? Est-ce que c'est simplement plusieurs choses? Ensuite, il y a les usages applicatifs. Oui, nous faisons du numérique avec des infrastructures et des données. Est-ce que l'administration, comme l'a dit Trésor, l'administration utilise effectivement l'informatique ou continue à travailler avec
la fonction publique
aujourd'hui. La fonction publique avec les papiers. Et puis, en fait, vous avez ensuite tout ce qui est régulation et gouvernance du numérique, tout ce qui a trait à
le cadre légal, est-ce que on a déjà?
Voilà, le cadre légal et la cybercriminalité. Parce que justement, la cyberdépendance, le fait d'aller vers le numérique nous fait attacher à un port de connexion dont nous ne contrôlons pas tous les accès. Je le dis, par exemple, avec l'ICANN, Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. Ça veut dire, c'est l'ICANN qui est aux États-Unis, qui donne à tout le monde les noms de domaine, les .fr, les .cd, les .ue et tout ça. Et ils ont tout ce qui est ressources racines là-bas. Donc, dès qu'on a une connexion au numérique, on est en train de s'attacher à une technologie dont nous n'avons pas forcément
La maîtrise.
Et donc, la cyberdépendance crée nécessairement un besoin de cybersécurité. Et c'est le dernier, c'est ce volet-là où on a le cadre légal, où on a tout ce qui est cybersécurité. La cybersécurité, c'est la réponse à la cybercriminalité. Il faut pas se tromper. Et il y a aussi la cyberdéfense, parce que le cyberespace, quand on se connecte, devient un territoire. On a vu, nous tous, comment les drones, dans la guerre avec l'Azerbaïdjan, sont intervenus. On a vu également les questions d'espionnage. Donc, j'ai répondu à la question en donnant toutes les initiatives. Le cadre légal, il y a la loi cadre sur les télécoms du 13 octobre 2002, qui ne traitait que des télécoms et pratiquement de la téléphonie. Cette loi est assez dépassée, mais elle tient quand même. Et puis, il y a eu le 23 novembre 2018, dans le Parlement du régime passé, donc de la législature passée, l'adoption de la loi sur les télécoms et sur les technologies de l'information et de la communication. Entre le passage du pouvoir des deux présidents, cette loi... la promulgation et la publication posent problème. Et maintenant, c'est que je sais, initiative dans laquelle je n'ai pas voulu travailler, le ministre du numérique travaille sur un code du numérique. Donc, on passera de la loi de 2002 sans l'adoption, la promulgation et la promulgation et la publication, pardon, sans la publication de la loi de 2018, et on devrait avoir un code du numérique, on espère, durant cette législature. Maintenant, précisément, les deux questions, Monsieur Trésor et Monsieur David.
Oui.
Oui, l'internet, ça nous ne le savons peut-être pas assez. C'est la politique industrielle des États-Unis. Ça commence en 1990 avec Al Gore qui a parlé des autoroutes de l'information, avec le nouvel ordre économique mondial poussé dans l'administration Bill Clinton dont Al Gore était le vice-président. Ensuite, l'Europe a pris le relais avec Monsieur Bangemann qui était un Allemand et qui était le commissaire européen en charge des questions des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Toutes les sociétés qui avaient les monopoles chez eux ont connu une saturation du marché. Et ils ont demandé au niveau de l'Organisation mondiale du commerce, avec les accords de Marrakech de 1996, de pouvoir libéraliser tous les secteurs. Mais eux, ils avaient déjà des sociétés puissantes en Europe, aux États-Unis. Quand on a libéralisé le secteur des télécoms dans le monde entier, ce sont ces sociétés qui sont venues se répandre partout dans le monde. Et chaque fois qu'on connecte par une des multinationales un pays, ça veut dire qu'on étend la puissance de la politique industrielle américaine telle qu'elle a été pensée. Alors, donc, ce que nous vivons aujourd'hui avec Internet n'est pas le fait du hasard, c'est le fait des politiques publiques qui ont poussé. Mais qu'est-ce qui se passe aux États-Unis? C'est HP déjà, donc Hewlett-Packard, au niveau de, en 1970, qui commence déjà à être le fournisseur. Donc vous avez IBM et vous avez HP, qui commencent à être les fournisseurs les plus importants du secteur de la défense aux États-Unis. Le secteur de la défense leur passe énormément de commandes pour qu'ils aient suffisamment d'argent sur le plan du marché économique et qu'ils puissent se développer. Et puis, vous avez les grandes trouvailles. Le truc ici de Apple, il existe depuis 1976. C'est Steve Jobs qui relance avec l'écran tactile dans les années 2010 ici, 2000, dans le 21e siècle, l'écran tactile. Donc, en 1976, on avait déjà aux États-Unis créé Apple. Mais simplement, ce qui se passe, c'est que pour le simplifier, c'est une politique industrielle américaine d'expansion, de globalisation, de mondialisation, mais assis sur les commandes que l'armée ou la défense qui a le plus gros budget peut passer au marché. Et le marché américain se développe au point où il explose de son propre cadre territorial et il doit avoir des multinationales partout ailleurs avec un relais du monde occidental.
Professeur, un instant, on va accueillir trois auditeurs et on va revenir à cela. Malonga est à Bandounouville. Roger nous appelle de Kinshasa et Dadi de Bounia. Malonga, bonjour. Malonga, vous êtes là?
De la radio, papy. Bonjour au professeur Eberan.
Voilà, là c'est Malonga ou c'est Roger?
C'est Roger Marcel Matisse à partir de Kinshasa.
Voilà, c'est plutôt Roger. Le professeur Eberan n'est pas là, et c'est plutôt le professeur Kodion Dukuma qui est avec nous dans ce studio. Quelle est votre question? Il y a beaucoup de bruit là où vous êtes.
Merci beaucoup, monsieur le journaliste. J'ai beaucoup aimé les sujets. J'ai trouvé comme le ministère du numérique, comme c'est un nouveau ministère, le ministre Eberan pouvait faire beaucoup de campagnes pour sensibiliser les gens, pour que les gens puissent connaître qu'est-ce qui signifie le numérique. Parce que à Kinshasa, les gens peuvent se trouver, mais ailleurs, avec le nouveau ministère de numérique, ça va beaucoup apporter beaucoup dans notre République, parce que ça va aussi aider aussi les jeunes aussi à se développer. Comme aux États-Unis, nous avons vu avec le numérique, beaucoup de jeunes avec leur business se retrouvent. Mais chez nous, au Congo, est-ce que le ministre Eberan a déjà fait aussi des projets qui peuvent aussi aider notre jeunesse pour aussi que notre jeunesse puisse aussi se développer?
Merci. Merci Roger Marcel. Dadi, vous êtes à Bounia. Bonjour.
Oui, bonjour. C'est Dadi Boudou. Je suis à Bounia.
Quelle est votre question?
Ma question va beaucoup plus dans le sens de la sécurité. Quelles sont les garanties qu'on peut avoir à travers les biens et services qu'on livre ici en République démocratique du Congo dans le cadre du numérique? Si je posais cette question, c'est parce que de manière populaire, nous sommes en train de vivre, par exemple, des ponctions de nos unités à travers des services RAM. Ça fait partie du numérique. Nous-mêmes, consommateurs de produits, nous n'avons pas souvent la possibilité, ou soit nous n'avons pas sur où nous pouvons soit nous sentir en sécurité par rapport à la numérisation ou aux produits numériques. Et même en Europe, ils vivent aussi des difficultés par rapport au numérique. Les paiements par PayPal, par Visa ou Mastercard ont toujours aussi des problèmes. Chaque quelqu'un qui a fait un achat, après vérification, il se retrouve dans une situation où il y a une ponction exagérée par rapport à ce qu'il a essayé de faire. Quelles sont les garanties de faire comme transaction? Quelles sont les garanties qu'on peut nous donner par rapport
merci au Dadi. Merci. Démocratique du cours? D'accord, merci Dadi depuis Bounia. Très bien. Bon, il y avait une réaction d'un internaute sur qui nous a envoyé un SMS, mais ça concerne plutôt le premier sujet qu'on avait abordé dans cette émission. Eh bien, alors professeur Kodjo, revenons à la question des trésors de Kinshasa qui a dit qu'il y a même des jeunes, un jeune qui a mis en place une tablette au Capi, et il y a aussi des jeunes qui ont créé des certaines applications comme School App et autres. Est-ce qu'on peut espérer avoir aussi des jeunes millionnaires et milliardaires comme c'est le cas aux États-Unis?
Cela est possible parce que le Nigeria l'a fait. L'Inde l'a fait. Vous avez Nollywood et Bollywood. Aujourd'hui, on a une avalanche de contenus de récréatifs venant du Nigeria. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir une politique d'incubateur pour les start-up. Les start-up signifient les jeunes entreprises qui émergent avec une innovation dans un secteur précis. Les États-Unis ont créé ce qu'on appelle le capital risque. Ça veut dire que vous ne pouvez ne rien avoir qui vous permette d'accéder à des crédits bancaires, mais simplement votre idée vaut de l'or. Selon KPMG, les données datent de 3 ans, on a dépensé 147 milliards de dollars dans le financement simplement des idées, avec le capital risque, qui est une invention.
Donc le ministère du numérique peut avoir un fonds comme ça?
Oui.
Pour financer des start-up. Donc
il faut avoir un fonds de l'innovation, mais ce fonds-là, je vais rapidement y arriver, est lié à ce qu'on appelle le service universel. Donc vous avez dans la chaîne de valeur, vous avez ceux qui ont l'intelligence inventive pour inventer, innover, des choses qui peuvent servir à des fonctions collectives grand public. Il faut détecter les talents. Quand on détecte les talents, on leur donne une forme. Ailleurs, il existe le Startup Act. Ça veut dire qu'il existe une loi qui protège justement l'innovation et ces jeunes poussent. Et on les met dans des projets d'incubation. Ça veut dire qu'on leur donne maintenant un espace, c'est souvent des cyberlabs, un espace où ils ont une forte connexion sans pour autant payer, où ils peuvent vraiment se développer. Et ensuite, quand ils ont le produit, on essaye de faire entrer ce produit dans le marché. Mais le plus gros employeur, le plus gros client, même aux États-Unis,
c'est l'État.
Même en France, c'est l'État. Et l'État doit commencer comme ça à utiliser les progiciels, les solutions que les Congolais peuvent commencer à adopter. Et en ce moment-là, il y a une consommation interne. Mais maintenant, il faut également le maillon de l'accès. Il y a quelqu'un qui a dit que dans les villages, il n'y a pas. La loi de 2002 a parlé du service universel. Il y a des endroits où, on appelle ça des zones blanches, où un opérateur n'ira pas s'installer à Kimbilangundu.
Il n'y a pas de courant, il n'y a rien, il n'y a pas de connexion.
Voilà. Il n'y a pas de courant, il n'y a rien. Il fonctionne aujourd'hui au groupe électrogène. Tous les opérateurs en milieu rural, ça leur, le coût d'opportunité est plus important. Ça veut dire qu'ils dépensent plus que ce qu'ils ne gagneraient.
Oui.
Et donc, il est prévu dans la loi de 2002, les articles 39 et 40 de la loi 013/2002 du 13 octobre 2002, qu'on puisse créer un fonds de service universel qui représente 3% du chiffre d'affaires des opérateurs. Et cet argent est déjà payé par les opérateurs, du chiffre d'affaires des opérateurs, pour faire maintenant le travail d'inclusion numérique. Ça veut dire que, comme les sociétés de télécom ne peuvent pas aller dans les zones économiquement non rentables, ils payent une taxe à l'État, qui est déjà prélevée, et ça je le signale, et l'État crée maintenant ce qu'on appelle le fonds de service universel, qui permet à l'État d'avoir, de manière tentaculaire, les manières de pouvoir intervenir, soit pour l'accès pour tous aux services de télécommunication, soit pour pouvoir créer un écosystème qui permette aux jeunes pousses de pouvoir se éclore. Maintenant, la fibre optique, c'est une très bonne chose. C'est une longue histoire également, mais on va la faire en deux temps.
Est-ce que c'est un préalable pour le développement du numérique?
C'est une composante indispensable, dans le sens où aujourd'hui nous sommes dans l'économie de la donnée. Ça veut dire qu'à l'époque, on avait juste besoin des faisceaux assez calibrés pour qu'on puisse faire des appels. Mais maintenant, regardez sur votre téléphone. Plusieurs fois, vous êtes obligé de vider votre galerie parce que en une journée, vous pouvez consommer 20 gigas, par exemple, de téléchargement des données. Alors, pour ça, on a besoin des infrastructures de large bande. Ça va? Les infrastructures de large bande, aujourd'hui, ce n'est qu'avec la fibre optique qu'on peut transporter autant de données. Si vous essayez avec le satellite, ça vous coûte trop cher. Si vous essayez avec les faisceaux hertziens, ça vous coûte également un problème. Et là, on doit quand même dire quelque chose d'avantageux du gouvernement actuel qui a réussi à négocier avec l'Égypte pour la construction de plus de 10 000 kilomètres de fibre optique. Parce que la fibre optique doit passer dans les différentes maisons, comme on a du courant, parce que c'est des infrastructures physiques, ou alors, ça c'est le last mile, ou alors au niveau de transmission longue distance. Aujourd'hui, nous avons une passerelle internationale WAX sur Mwanda, qui fonctionne bien sur le plan international. Mais quand vous prenez de Mwanda, vous traversez ici Matadi, vous revenez jusqu'à Kinshasa, la ligne elle est mauvaise. Or, cette infrastructure de transmission permet aux sociétés de télécom qui fournissent également l'Internet, on les appelle des ISP, Internet Service Provider, de pouvoir collecter toutes les données possibles de trafic et de pouvoir les faire sortir par la seule voie internationale que nous avons.
Oui.
Mais là, il se pose un problème et donc deux choses, il faut densifier le réseau à fibre optique et il faut optimiser la ligne de sortie internationale pour ce faire. Bon, les garanties de sécurité, peut-être quand vous aurez le temps.
Ça, on va en parler une prochaine fois.
Merci beaucoup.
Donc, pour terminer, professeur Kodjo, on retient que pour développer le numérique, le préalable, c'est que la fibre optique est une composante importante. Vous avez dit qu'il faudrait aussi créer des espaces pour les jeunes qui ont des startups.
Les incubateurs.
Les incubateurs. Et puis, le cadre légal aussi doit être clarifié. C'est tout ça, quoi.
Et puis, il faut que l'État également se numérise.
C'est le gouvernement, l'administration publique
doit se numériser parce que ça va obliger tout le monde à pouvoir le faire.
Merci professeur Kodjo Ndukuma, expert en droit numérique. Marcel m'a fait signe que le ministre Désiré Cachemire-Bérand était dans une réunion interministérielle. Il n'a pas pu participer à cette émission, peut-être une prochaine fois. Mesdames et messieurs, nous vous disons merci d'avoir suivi cette émission et à la prochaine.